Bonjour Monseigneur.
Bonjour Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on parle ?
Eh bien, nous allons parler du fait que tu finiras totalement insensible. Bien sûr, on va rentrer dans le détail du pourquoi, du comment de ce titre. Mais avant toute chose, je t'invite à liker, commenter, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça nous permet tout simplement de gagner en visibilité et de faire connaître ce podcast à de plus en plus de monde, impacter le monde autour de nous et autour de toi par conséquent. Et puis, tu nous soutiens en fait tout simplement dans notre mission. Donc ce sera très très apprécié que tu prennes ce temps-là pour redonner un peu plus de place à ce podcast. Yes. Ensuite, petit coup de pub rapide comme d'habitude, l'Institut Merlin, que tu connais certainement maintenant déjà, c'est un centre de formation d'excellence en coaching. En fait, notre rôle, c'est vraiment de former et d'accompagner les futurs coachs de demain d'excellence, ceux qui vont faire une différence dans la vie de leurs clients et de leurs clientes, que ce soit à titre personnel ou professionnel, et justement de démontrer toute la puissance que peut avoir l'approche du coaching systémique, alliée à la PNL, la sophrologie, l'hypnose et la psychologie positive. Et bien entendu, comme d'habitude, nous sommes aussi là pour accompagner les coachs qui sont déjà formés, certifiés, mais qui n'auront pas eu malheureusement l'occasion de suffisamment pratiquer, de suffisamment aborder des sujets en profondeur et qui se sentent tout simplement perdus dans leur pratique aujourd'hui pour réussir à atteindre les résultats qui les intéressent. Donc si tu as un projet, si tu as quelque chose que tu as envie de mettre en place par rapport à tout ça, la relation d'aide, même dans le cadre de la thérapie, on est là pour t'accompagner. Donc surtout, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, ça nous fera plaisir de faire un point avec toi. Et on est parti, Samir, si t'es ok, pour notre sujet du jour, tu finiras complètement insensible.
Exactement Julien, on va venir avec un sujet passionnant, en tout cas c'est un truc qui nous touche et puis on en a discuté plusieurs fois ensemble. C'est le problème de la désensibilisation. Alors quand je parle de désensibilisation, c'est le fait que notre cerveau s'habitue au contenu trash qu'il voit au quotidien. C'est-à-dire que le fait qu'il soit constamment mis en contact avec des informations violentes, avec des séries violentes, avec du contenu violent, peu importe quel qu'il soit, d'accord ? Au fur et à mesure du temps, le cerveau s'habitue à du contenu encore plus gore et dégueulasse. Et en fait, il va aller chercher encore plus loin pour avoir une certaine stimulation. Ça se présente vraiment dans tout type de contenu qu'on peut regarder. Et cette chose peut être énormément problématique, alors sur nos habitudes, sur notre comportement avec les autres, mais ça peut aussi toucher notre identité, Julien.
Ouais, ça peut aller très loin. Et en fait, tu vois, tu donnes quelques exemples ici, mais ça s'applique vraiment à tout. C'est-à-dire que le cerveau s'habitue à tout. Et en fait, il y a une espèce de lassitude qui peut s'installer à force de répétition de certaines informations et même parfois des expériences de vie qui sont compliquées, qui sont douloureuses, mais il y a un niveau où finalement il n'y a plus d'engagement, de réaction face à ce qui se produit parce que c'est devenu un petit peu comme une habitude. Et cette habitude qu'on peut prendre par rapport aux choses qui nous arrivent, par rapport aux choses qui se produisent autour de nous, par rapport aux informations qui sont partagées et qui viennent jusqu'à nous, en fait, c'est à la fois quelque chose qui est normal et à la fois quelque chose auquel il faut faire attention. Tu prends un exemple tout simple. Tu vas prendre une personne qui vit plutôt en campagne, qui vit plutôt en région, comme on dit ici. Donc en dehors des grandes villes, en dehors des grandes agglomérations. Et tu les propulses au cœur d'une grande ville ou d'une grande agglomération. Et en fait, très probablement que ces personnes-là vont dire « Oh là là, mais c'est dingue le nombre d'itinérants que vous avez, de personnes sans abri, de mendiants, c'est dingue comment les gens sont agressifs, c'est dingue comment les gens sont speed. » Et en fait, tu remarques ça parce que ça fait pas partie de ton habitude. Mais quand tu vis dans une grande ville, quand tu vis dans une grande agglomération, où malheureusement tu croises beaucoup de SDF, de sans-abri, d'itinérants, tu trouves beaucoup de mendiants, tu trouves beaucoup d'agressivité, tu trouves beaucoup de gens qui sont speed, en fait, tu fais même plus attention. C'est-à-dire que ça fait partie de ton décor, et à partir de là, ça devient beaucoup plus normal. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient complètement insensible, attention, mais c'est que comme ça fait partie de ton environnement et de ton expérience au quotidien, ça déclenche pas de sensibilité particulière. Maintenant, si tu prends le temps de regarder une personne qui est en difficulté et que là, tu commences à te dire « Oh là là, pauvre personne, ce qu'elle est en train de vivre, c'est compliqué pour elle. Je ne sais pas s'il y a des solutions qui existent. Je ne sais pas si on pourrait faire telle ou telle chose. » Bah là, effectivement, tu vas retrouver ta sensibilité sur le sujet parce que tu ne seras pas dans un contact automatisé. Tu ne seras pas dans un contact aseptisé, en fait, par rapport à la situation. Mais concrètement, tu vas finir par t'habituer. C'est triste, mais c'est comme ça.
Ouais, ouais c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être en lien. Hein. C'est aussi le cerveau qui va s'habituer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps qu'on va habituer notre cerveau à du contenu de plus en plus trash, bah, en fait, il y a pas mal de choses qui vont s'activer, en tout cas dans le cerveau. Il y a des nouveaux chemins neuronaux qui vont se créer. Et en fait, tout ça, bah, ça va comme faire en sorte que la stimulation qui va être déclenchée en fait, par le cerveau, bah, elle va perdre comme en intensité, en fait. Il aura besoin de beaucoup plus. Et c'est ce qui se passe aussi, par exemple, avec les drogues. C'est-à-dire qu'au plus une personne, elle va venir, elle va consommer de la drogue, au plus la dose que la personne prenait au début pour avoir son, son effet waouh, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais voilà, cette espèce d'effet-là, en fait, bah, il va avoir besoin de beaucoup plus, en fait. Le cerveau, il va comme avoir
ça
besoin
va demander,
de plus.
Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un point important que tu nommes là, parce que ben, y a ce côté habitude, et tu vois, ça, on le retrouve aussi dans les activités du quotidien, le sport, par exemple. Tu sais, si tu vas faire du sport et que tu fais une session intensive, bon, pour peu que tu aies un système qui soit sensible au boost de dopamine, etc., plus peut-être que la moyenne, bah, tu vas, en fait, vouloir revivre cette expérience-là, tu vas vouloir revivre la chose. Et le truc, c'est que si tu refais exactement le même exercice dans les mêmes conditions, vraiment de la même façon, bah en fait, va y avoir beaucoup moins de plaisir, beaucoup moins de stimulation. Et c'est aussi, entre autres, ce qui explique quand tu décides d'aller à la salle de sport, de commencer à te mettre au sport, tu vas la première fois et tu te dis, bon, si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, on est d'accord. Mais si tu le fais et que là, tu prends du plaisir et tu te dis, en fait, ça fait du bien, c'est vachement agréable, puis je sens que j'ai bougé, je me sens énergisé, c'est vraiment chouette. Et en fait, tu te dis bah, que la prochaine fois que tu vas le faire, tu vas revivre ça. Et en fait, la deuxième fois que tu le fais, bah, tu revis encore un peu ça, mais c'est plus exactement comme la première. Puis tu recommences une troisième, puis tu recommences une quatrième. Et on s'entend de toute façon que si t'as pas des compétences particulières dans la connaissance du corps, de ses fonctions, du sport de manière générale, si t'es pas accompagné par un coach ou une coach sportive, tu vas avoir tendance à reproduire les mêmes exercices avec lesquels t'es à l'aise, t'es confortable. Et en fait, il va arriver un moment donné où tu vas finir par t'habituer. Et si tu faisais du sport, entre guillemets, juste pour le plaisir d'en faire à un moment donné, et qu'il n'y a pas de discipline, bah en fait, tu vas arrêter parce que tu vas devenir insensible quelque part à ce que à l'origine, au départ, cette expérience de sport pouvait t'apporter. Ça joue, par exemple, même à ce niveau-là.
Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est juste que ce phénomène de désensibilisation, tu vois, c'est un phénomène qui, au départ, est naturel parce que le cerveau, il s'adapte à son environnement. Ce qui fait que si on est confronté à un environnement où on va être submergé de stimuli, ou à du contenu où il y a énormément de stimuli, énormément d'émotions, énormément de trucs choquants, bah en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire au fur et à mesure du temps? Il va comme s'adapter pour éviter justement d'être tout le temps dans cette espèce d'effet de panique là, de trop de stimuli, trop de choses choquantes, trop de trucs. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit par devenir normal. Et tu sais, je me rappelle, je vais te donner un exemple, mais à une époque, tu sais, on me parlait beaucoup de Walking Dead. J'ai commencé à regarder Walking Dead, sauf qu'au début, moi, ça c'était à gerber. Hein. J'ai regardé, je pense, 2-3 épisodes, c'était à gerber, c'était horrible. Et à un moment, en fait, j'ai continué pour l'histoire, plus que le contenu gore, parce qu'après, de toute façon, ça baisse cette histoire de contenu gore. Mais je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure du temps, qu'un truc qu'avant, je pouvais pas regarder, bah là, ça devenait, bah, tu sais, voir un zombie avec des tripes qui sortent, là, c'était, ça me gênait, mais ça me gênait pas autant que la première épisode, tu vois. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas bon, ça. C'est pas bon pour moi, en fait, de m'habituer à ce genre de contenu. C'est un peu comme si ça va toucher aussi à ma sensibilité. Et ma sensibilité, c'est quelque chose qui est important. Donc, j'ai arrêté. Enfin, au bout d'un moment, j'ai arrêté, tu sais. Je me dis, je regarderai plus ce genre de contenu. J'ai pas envie de m'habituer à ça. Et c'est là, en fait, que j'ai eu tout ce raisonnement, tu sais, qui se disait, mais en fait, quand on regarde bien, l'être humain est capable de s'habituer à tout. Et c'est ce qu'on remarque aussi, par exemple, les gens qui habitent dans les pays en guerre. C'est à force de voir des massacres, à force de voir ce qui se passe autour, au bout d'un moment, ça les impacte moins, en fait, jusqu'au jour où ils sortent de cet environnement. Je peux donner l'exemple, là, en ce moment, de ce qui se passe en Palestine. Hein. Mm-hmm. Les journalistes indépendants, les Palestiniens, justement, ouais. qui sont en train de filmer. En fait, quand ils sont dans le terrain, mmh. ils s'habituent, en fait. Il y a des morts partout, etc. Ça les choque, mais c'est comme, sur le coup, ils s'habituent, en fait, mmh. à ça. Le ouais. truc, c'est qu'il y en a certains qui sont sortis au bout d'un moment, tu vois, qui mmh. sont sortis de Palestine, sont partis dans d'autres pays, justement, comme pour se reposer parce que c'était trop, mmh. et aussi pour mettre leur famille en sécurité. Ben, en fait, c'est quand ils sont sortis de cette situation, qu'ils ont commencé justement à vivre, à faire des cauchemars, à vivre des traumatismes, à ne plus réussir à dormir. Et il y en a pour certains même qui se disaient, honnêtement, je préfère mourir parce que les images que j'ai en tête là, je peux plus du tout les gérer. C'est une horreur. Et en fait, ouais. c'est ça. C'est vraiment de comprendre que le cerveau va s'habituer à tout. Tu sais, c'est à la fois positif que le cerveau puisse s'habituer à tout parce que ça te permet de vivre des situations vraiment difficiles. Tu vois? Et on peut même faire le parallèle avec ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, hein, malheureusement. On peut parler de Viktor Frankl. Viktor Frankl, en fait, qui nous parle beaucoup aussi de résilience. Oui. Ben, comment cette résilience s'est bâtie? C'est parce qu'en fait, il était tellement dans un environnement qui était horrible qu'au bout d'un moment, le cerveau, il est obligé de s'adapter. En fait, c'est un mécanisme de défense et de survie qui se met en place. Ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est comme s'ils vont être désensibilisés à ce qu'ils sont en train de vivre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une horreur. C'est une horreur ce qu'ils vivent. Mais le cerveau, par mécanisme de défense, il va désensibiliser pour s'adapter et pour faire en sorte que la personne puisse survivre le plus longtemps possible. Et le truc, ouais. c'est que quand tu vis dans un environnement comme ça, parce que c'est le monde qui t'impose ce que tu es en train de vivre, je te dirais pas que c'est OK, mais là, à ce moment-là, on dira que c'est le cerveau qui s'habitue à ton environnement. Mais par contre, quand tu le provoques en allant regarder constamment du contenu ultra trash, là, par contre, c'est dangereux pour toi.
Ouais. Alors, merci pour tout ça, Samir. Et effectivement, ouais, tu nommes Viktor Frankl, mais on peut aussi nommer Boris Cyrulnik, qui est plus connu finalement en francophonie que Viktor Frankl, mais qui partage en fait tous les deux des approches sensiblement similaires. Ils amènent beaucoup la résilience. Puis ils ont tous les deux la même expérience finalement en commun. Ils l'ont vécu chacun à leur façon, mais ils ont tous les deux une expérience commune justement par rapport à l'Holocauste. Peut-être un point, et on essaie toujours, en tout cas dans nos podcasts, d'amener ces nuances et d'amener de la perspective. Quand tu parles que si on prend les journalistes ou les personnes qui sont sur des terrains de guerre et qui voient des massacres tous les jours, qui voient des morts partout dans les rues, etc., qui deviennent insensibles, en fait, c'est pas que tu t'habitues au fait que ce soit la guerre et puis c'est OK, puis c'est pas grave.
On vulgarise, bien sûr.
Il y a des gens qui meurent autour, puis personne n'en a rien à taper. C'est juste que par la force des choses de ton environnement, si c'est toujours les mêmes éléments qui se produisent, t'as une habitude qui va s'installer, et tu le dis très bien, Samir, c'est un mécanisme de défense, mais c'est pas parce qu'il y a cette question d'habitude qu'il n'y a pas de trauma. Fait, ce que tu nommes de... J'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois ou juste quelques jours, parce que il suffit juste d'une fois pour vivre ce genre de trauma. Et j'ai vu des morts partout, j'ai vu des gens se faire abattre, j'ai vu des gens massacrés, etc. Peut-être que quand t'es dans la situation et que t'es en train de vivre le truc, ton cerveau, il met en stand-by beaucoup de choses. Exactement. Et il y a une espèce d'habitude qui s'installe et tu t'habitues. Entre guillemets, ça fait partie de ton environnement, ça fait partie de ton quotidien. Mais c'est sûr que quand tu sors de là, quand ça se termine, quand il se produit quelque chose de différent et que tu reviens finalement à un état de sécurité, à un état beaucoup plus stable, là tu te prends une grosse claque parce que les traumas qui étaient en suspens vont revenir et ça va frapper fort en fait, ça va frapper très fort. Donc vraiment pas prendre le raccourci ici quand tu disais ça, Samir, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'on est en train de dire que quand t'es dans une situation traumatique, que ce soit une situation d'esclavage, de massacre, de guerre, de manipulation, de viol répété, de tout ce que tu veux, qu'en fait, c'est pas grave, en fait, on s'habitue à tout. Ton cerveau, il s'habitue. Il va trouver des stratégies pour te permettre de survivre dans cet environnement-là. Mais ça n'empêche que les traumas, ils sont là en arrière et ils vont finir par s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, juste peut-être vraiment de mettre un peu plus l'accent là-dessus pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire et qu'on mette pas dans notre bouche finalement des mots qu'on n'a pas, qu'on n'a pas partagé parce que, bon, je pense que tu le comprends et que tu le sais, toi qui nous écoutes, si ça fait un moment que tu nous suis, c'est important pour nous, autant pour Samir que pour moi, de pouvoir vous partager de l'info, mais qui va être cohérente, qui va être vérifiée le plus possible, et surtout qui va être pertinente et applicable pour que tu puisses l'intégrer et l'utiliser dans ton quotidien.
Ouais.
Donc, tout ça étant dit, c'est sûr que quand tu vas consommer énormément de contenu qui va être trash, un petit peu comme tu dis, Samir, alors que ce soit du porno, que ce soit des films ultra-violents, que ce soit des clips, que ce soit de la musique violente, c'est des paroles violentes, que ce soit des livres où il y a de la violence, où il y a de l'agression, où il y a de la méchanceté pure. Bon, bah, à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, tu nourris ton cerveau avec ça. Et nécessairement, ça va avoir un impact sur toi. Ça va avoir un effet sur toi. Peut-être que t'enfiler les news à longueur de journée, ça te fait plus rien parce que t'as tellement l'habitude d'entendre parler des massacres, des bombes, des meurtres, des viols, des enlèvements, des guerres dans le monde, des incendies, des ceci, des cela. Peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, bon, bah, tu sais, c'est un truc de plus. C'est, bah, ok, ça arrive encore, puis c'est encore, et puis c'est encore. Et tu sais, ça me fait rebondir, puis très rapidement, parce que je veux pas qu'on parte dans cette voie-là.
Bien
mais
sûr.
Tu sais, ça me fait penser à toutes ces personnes bien pensantes qui viennent te dire « Ouais, mais en fait, ça, t'en as plus rien à foutre des gens qui sont en train de crever à l'autre bout du monde. » Non, c'est pas que j'en ai plus rien à foutre. C'est qu'à un moment donné, on en parle tellement, on me le montre tellement, on me le rabâche tellement que ça m'insensibilise. Et comme peut-être c'est un sujet sur lequel j'estime que j'ai pas de pouvoir, que j'ai pas un intérêt particulier, ça veut pas dire que je n'aime pas ces personnes-là, ça ne veut pas dire que j'en ai rien à faire qu'ils soient dans cette situation-là, mais c'est que le sujet... Bah, en fait, je le saisis pas, je le prends pas. Et comme je suis pas dans une dynamique où, bah, je m'intéresse en profondeur au sujet, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions, j'essaye de voir qui est-ce qu'on peut faire bouger pour que ça change, bah, forcément, si j'ai l'information qui m'arrive tous les jours, tout le temps, 15 fois par jour, bah, à un moment donné, c'est comme, ok. Et c'est comme les gens, tu sais, je pense, là, je vais bientôt aller à Paris. Bah, je vais en voir. Alors peut-être qu'il y en aura moins parce que malheureusement ils vont faire du ménage pour les JO. Mais c'est des mendiants, des gens qui ont rien à bouffer, qui ont pas de toit, qui sont malades, qui traînent dehors. T'en vois tous les jours, t'en vois à tous les coins de rue. Et en fait, si t'as l'habitude de vivre dans cet environnement-là, bah maintenant tu passes à côté, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, tu les regardes pas, tu les écoutes pas, parce que bah il y en a un là, il y en a un peu plus loin, il y en a encore un peu plus loin. Et à un moment donné, bah par mécanisme de préservation aussi. C'est dire, ok, ben, en fait, ils sont là, puis il y en a partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai pas de pouvoir de changer ça. Donc, il y a ce côté habitude qui s'installe. Mais est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne pour autant? Non. Comme une personne qui va subir, en fait, des sévices psychologiques, émotionnels, physiques, peut-être même les trois en même temps, et qui continue, en fait, à rester avec les personnes qui sont responsables de ces sévices, qui continue à supporter, qui continue à accepter. Est-ce que ce sont des mauvaises personnes pour autant? Non. C'est le système qui, malheureusement, installe une certaine habitude et une certaine insensibilité. Ça ne veut pas dire qu'on souffre pas, d'accord? Mais il y a une certaine insensibilité dans le sens où tu réagis pas. T'es plus dans la phase de réaction, t'es dans la phase de passivité. Et dans cette phase de passivité, bah, cette passivité-là, ça ne veut pas dire que tu t'en fous. Ça ne veut pas dire que t'en as rien à foutre. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Ça ne veut pas dire que c'est tout le contraire. Et peut-être un dernier point là-dessus avant que je te laisse prendre la suite, Samir, c'est que, tu sais, des fois, tu peux avoir l'impression que t'es entouré de personnes, puis peut-être même ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants, qui peuvent sembler parfois complètement insensibles. Et que tu te dis, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Je leur dis qu'il y a ça, je leur dis qu'il y a tel truc, et ils en ont rien à foutre. Non, c'est peut-être d'une, parce que t'arrêtes pas de le répéter en permanence. Donc ça devient une information qui fait partie du fond, du décor. Et puis deuxièmement, bah, y a certainement des mécanismes de défense qui les poussent à justement s'éloigner de ça, pas en prendre la responsabilité, pas s'intéresser au sujet. Est-ce que je m'en fous pour de vrai? Non, probablement pas. Est-ce que ça affecte? Très certainement. Mais comme il y a ce côté habitude de bon, bah, ça fait partie d'eux, mais en même temps, c'est inconfortable, mais cet inconfort, bah, j'ai comme l'habitude de l'avoir, donc zone de confort, entre guillemets, fait que je fais rien. Je bouge pas.
Ouais, ouais, exact. Exactement. C'est bien, Julien, aussi, d'avoir mis tout à l'heure un peu de nuance par rapport à ce qui avait été dit. Effectivement, pour que ce soit bien compris. Un autre point que j'aimerais bien amener, Julien, par rapport à tout ça, c'est par rapport aux besoins de stimulation et d'excitation. Ça, c'est des points qui sont importants chez nous. Le cerveau aime bien être confronté à des nouvelles choses. Il aime bien apprendre, il aime bien aller chercher plus parfois. Et ça, ça peut être aussi, alors pas forcément, mais ça peut être aussi en lien avec la dopamine. Ce qui fait que bah, au plus tu vas être confronté avec certains types de contenus, au plus pour le cerveau, ça va pas être suffisant. On a parlé des drogues, on a parlé justement du contenu gore. Bah, c'est la même chose, en fait. Le cerveau, il va toujours se dire, ah, en fait, si tu veux, pour retrouver son niveau de dopamine normal, on va vulgariser au maximum, bah, il va avoir besoin de plus. Et
oui.
J'ai parlé tout à l'heure rapidement du problème, par exemple, de la pornographie. Moi, c'est un sujet qui me touche parce que je me renseigne beaucoup sur les dangers que ça a sur les enfants. Et moi, ça me touche personnellement. J'avais dit, Julien, que je voulais bien faire une formation justement par rapport à ça, parce que j'ai déjà eu des parents qui m'ont demandé bah, comment je peux faire pour bloquer des sites, etc. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et dans mes diverses lectures, c'est là que j'ai compris aussi en partie pourquoi le cerveau se désensibilise et pourquoi aussi aujourd'hui, on arrive dans des sociétés qui sont de plus en plus sexualisées. Pourquoi ? Parce qu'au départ, déjà, une image pornographique pour un enfant, par exemple, ça va créer un trauma. Ou même quelqu'un de plus adulte. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui tombe ça pour la première fois. Le cerveau ne comprend pas. Donc, ça crée des traumas. Surtout la première fois que ça a été visionné. Le truc, c'est qu'après, au plus tu vas être confronté, au plus le cerveau, tu sais, ce que tu regardais au départ, ça va être comme, c'est OK, tu vois. Et après, ça va être comme, ben, tu veux plus ? Va regarder pire. Et en fait, il y a des gens qui vont basculer. Je vais dire un truc qu'il faut bien comprendre parce qu'il y a le trouble, mais il y a aussi d'autres choses. Les personnes qui regardent constamment ce genre de contenu ont des risques de tomber sur du contenu hyper gore, hyper trash, voire même à basculer dans ce qui est en rapport avec la pédophilie. J'ai déjà lu ces choses-là, des témoignages dans des bouquins de personnes qui étaient tellement confrontées et tu sais, ils sont vraiment tombés dans l'addiction qu'ils regardaient. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est addict à ça va basculer dedans. Mais il y a certaines personnes...
Non, il faut bien faire la distinction. Ouais, voilà,
on le garde à l'esprit. Mais il y a certaines personnes qui étaient tellement... Alors, il y a certainement d'autres leviers en amont, hein, d'accord, qu'on le prenne en considération, mais qui ont tellement été confrontés à ça, désensibilisés, qu'à un moment ou l'autre, ils se sont rendus compte qu'ils commençaient à basculer dans ça, jusqu'à faire machine arrière, parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, non, c'était pas bon, en fait. Alors que, ils se disaient qu'il n'y avait pas de problème au départ. Je prends cet exemple-là, mais on peut prendre aussi l'exemple des jeux violents. Et je le dis encore une fois, c'est pas parce que tu joues à des jeux violents que tu es quelqu'un de dangereux. Non. Encore une fois, ça dépend de ton degré d'exposition à ce genre de contenu. C'est surtout ça, d'accord ? Qui va faire que ça peut être dangereux ou pas. Ok ? Et c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu regardes, que tu regardes des films violents, que tu regardes des news en continu qui sont anxiogènes, qui t'amènent des idées hyper anxiogènes, en fait, c'est ton degré d'exposition à ces choses-là qui vont malheureusement te désensibiliser petit à petit. Et il y a énormément, ça commence à ressortir. Il y a de plus en plus d'études qui ressortent sur toutes ces choses-là. Je me rends compte aussi des dangers que ça peut faire, surtout quand c'est un enfant qui tombe dessus parce que le cerveau est pas encore prêt.
Ouais, complètement.
Tu vois.
Complètement.
Donc, mais même pour un adulte, ça peut être très dangereux.
Bah, c'est ça. Après, ça dépend à quoi t'as été exposé. Ça dépend de ton degré, aussi, je pense, d'innocence personnelle.
Ouais.
Parce que t'as des personnes qui vont être beaucoup plus innocentes. Alors, ça veut pas dire qu'elles commettent pas d'impair et qu'elles font pas de fautes et qu'elles mentent pas et qu'elles font pas de bêtises, hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, t'as un degré d'innocence, en fait, qui peut être très, très perturbant. Et tu vois, quand tu parles de ça, il y a un élément qui me vient en tête. C'est la problématique de l'agoraphobie. Alors, on s'éloigne sans vraiment s'éloigner, mais c'est pour vraiment donner un exemple. L'agoraphobie, la plupart du temps, ça touche les femmes plus que les hommes. C'est une problématique qui est beaucoup plus féminine que masculine. Et en fait, si on regarde un petit peu d'où est-ce que ça vient, c'est très souvent une femme qui va avoir une figure d'autorité qui est souvent représentée par le père, très protecteur. Donc en fait, on a un parent, mais ça peut être la mère aussi, hein, ou d'autres personnes d'ailleurs, qui vont être très 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 protecteurs. Protectrice, Et en fait, cette personne-là va finir par disparaître à un moment donné. Et en moyenne, ça apparaît aux alentours de la quarantaine. C'est-à-dire que la femme de 40 ans qui va perdre son parent référent ou une personne très protectrice référente, et là, en fait, ça va être le premier choc. Et le premier choc va faire que bah, y a la peur d'avoir peur, la peur de tout. La peur de mourir, la peur de vivre, la peur de qu'il se passe quelque chose, parce que le cerveau, à ce moment-là, n'est pas du tout en fait habitué aux épreuves qui auraient dû être vécues par le passé, parce qu'il y a eu une surprotection. Pourquoi je disais ça ? Éviter à tout prix les sources négatives, c'est pas bon, parce que le jour où t'as un truc négatif qui te tombe dessus, parce que ça va arriver, tu vas prendre une claque tellement forte que tu vas faire trois fois le tour de ton slip sans le toucher. Maintenant, si t'es constamment mis en contact avec justement des informations négatives, des informations qui ont un potentiel traumatisant, bah c'est pas bon non plus. Donc faut ni l'un ni l'autre. Ça veut pas dire que bah tu dois te mettre au planning de regarder peut-être 3 jours dans la semaine les informations bien dégueulasses pour habituer ton cerveau, que tu dois te taper des trucs trash en porno pour habituer ton cerveau pour éviter d'avoir des chocs plus tard. C'est pas l'idée qui est amenée ici. Hein. C'est vraiment que ton cerveau, comme on le dit depuis le début, il s'habitue à beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'il s'habitue que c'est pas mauvais pour toi. Le premier jour où tu fumes une clope, tu tousses ta grand-mère et t'es prêt à crever sur place. Mais tu vas quand même continuer à fumer, puis à un moment donné, tu vas plus tousser. Ou alors si tu recommences à tousser, c'est que ça sent pas bon pour ta santé. Mais tu vas plus tousser par rapport à la fumée que tu ingères. Bon, bah c'est pas parce que tu t'es habitué que c'est bon pour toi. C'est comme l'alcool, si t'en prends un petit peu, tu vas un petit peu trop loin, bah tu vas avoir la gueule de bois le lendemain, tu vas peut-être vomir tes tripes dans les toilettes, c'est possible. Mais si tu le fais tous les jours, à un moment donné, bah tu vas plus avoir cet effet-là. Mais est-ce que c'est parce que j'ai plus l'effet que ça pose pas de problème ? Si, ça pose un problème, c'est juste que ton système tout entier s'est habitué et a pris un certain rythme de fonctionnement. Donc c'est vraiment de faire très attention à ça, parce que c'est très vicieux en fait, et puis ça peut aller très vite. Tu sais, je prends par exemple un sujet qui me touche peut-être un petit peu plus personnellement ici, qui est ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Bon, bah, le problème avec les douleurs chroniques, c'est que très souvent, initialement, c'est des douleurs avec lesquelles les gens vont travailler, entre guillemets, ils vont prendre des traitements, ils vont essayer d'eux. Et en fait, plus le temps va avancer, plus ils vont se faire une raison, plus ils vont se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai mal, c'est comme d'habitude, ça change pas, et ils vont s'habituer. Et en fait, on arrive à un moment donné où on a tellement pris l'habitude d'avoir mal que la douleur devient chronique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle va revenir pour un oui ou pour un non sur des périodes plus ou moins courtes. Et il n'y a plus vraiment grand-chose que tu peux faire souvent sur ce genre de douleur parce que, bah en fait, t'as mal, mais il n'y a peut-être aucune raison d'avoir mal, mais la douleur, elle revient, puis elle se représente, puis elle repart. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as eu un niveau de tolérance beaucoup trop important au départ, face à cette situation. Fait que tu t'es habitué, tu as fait avec, tu as dealé avec, et à un moment donné, bah, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus gênant, parce que ça s'installe sur le temps, et que là, bah, tu peux plus faire grand-chose. Donc, c'est vraiment ce principe-là, c'est de te dire, il y a des choses que tu tolères dans ta vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu les tolères, et est-ce que c'est vraiment si important que ça, que tu leur laisses de la place. Et il y a d'autres choses que tu vas pas tolérer et desquelles tu vas t'éloigner le plus possible, mais où c'est problématique aussi, parce qu'un jour, ça va te revenir en pleine face, et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans cette dynamique, hein, Samir, et même à l'Institut, cette notion de milieu juste, d'équilibre, cette souplesse et cette élasticité entre les pôles qui peuvent exister dans notre mode de fonctionnement où, en fait, plus tu es élastique, d'accord, plus tu es souple dans ta manière de fonctionner dans tes stratégies cognitives, moins tu as de chance, en fait, d'être victime d'éléments qui vont ressortir de ton système, de tes réactions, de tes comportements, qui t'amèneront dans une direction qui va être mauvaise. Donc, les extrêmes, on les oublie, ça sert à rien, on gagne en souplesse, mais on garde aussi en tête que, bah, on est responsable en grande partie, finalement, de ce qu'on va tolérer dans le quotidien et qui va finir par devenir une habitude. On va y être insensible, donc en fait, on va sortir des réactions, mais ça se trouve, c'est en train de nous flinguer complètement notre équilibre psychique, notre équilibre émotionnel, notre équilibre comportemental. Vraiment, de faire très, très attention à ça.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, justement, moi, c'était le truc sur lequel je voulais embrayer avant de donner peut-être des astuces ou des outils, justement, pour reprendre le contrôle si toi, t'es tombé dedans. Et il y a de fortes chances, hein, aujourd'hui. De toute façon, il y a tellement de contenu. C'est aussi pour nous. C'est pas un hasard si aujourd'hui, on se retrouve avec du contenu de plus en plus gore, de plus en plus sombre. Même les films, hein, comme tu le disais, Julien, deviennent de plus en plus sombres. Je veux dire, au cinéma, à la télévision, etc.
Ouais,
C'est que c'est
complètement.
aussi un outil de manipulation. Alors,
Ben,
on
je
vient
trouve,
jouer sur nos
bah, ben,
peurs.
ouais, personnellement, je trouve ça très dommage. Il y a des films qui sont très intéressants, mais j'ai, alors je sais pas, c'est peut-être mon côté bisounours, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde de licornes et de bisounours, ce serait cool. Mais j'ai quand même pleinement conscience que ça n'existe pas et que le mal existe dans le monde, hein, le mal avec un grand M. Mais c'est ça, après, c'est aussi représentatif de la dynamique d'une culture, de la dynamique d'une société, où finalement, bah, si tu vois que dans l'art, que ce soit l'art cinématographique, l'art visuel, l'art auditif, donc la musique, la chanson, etc., si tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de choses qui sont dramatiques, qui sont noircies, qui sont sombres, qui sont agressives, qui sont violentes, bon, bah, c'est aussi représentatif de c'est quoi qui se produit dans l'inconscient collectif, c'est quoi qui est installé dans la conscience collective. Et perso, j'aime pas trop la direction dans laquelle ça va. Bon, après, on agit, nous, de notre côté, et on travaille fort avec l'Institut pour remettre de l'équilibre. Maintenant, au-delà de notre rôle peut-être de rebelle par rapport à tout ça, bon, on sait qu'on a un impact qui a toute sa limite aussi. Mais ouais, c'est un bon point que t'amènes. Tu mets en lumière un truc intéressant là.
Merci Julien. Alors juste rapidement, les conséquences que ça peut avoir sur nous, diminution de l'empathie. Parce que forcément, au plus on est exposé à ce genre de contenu, au plus ça devient normal pour nous et au plus on va avoir des difficultés à se connecter à nos émotions et à se connecter justement à notre empathie. Ensuite, il y a l'augmentation de l'agressivité. Forcément, puisque au plus on va regarder du contenu violent, être exposé à du contenu violent, dans les jeux vidéo c'est pareil, quelqu'un qui est tout le temps sur des jeux vidéo violents, avec du sang, avec du ceci, de cela, s'il est trop confronté à ça, ça peut avoir des conséquences. D'accord? Vraiment, ça peut vraiment avoir des conséquences.
En fait, là-dessus, ben, j'ai un point que je voulais évoquer tantôt, et puis là, il vient vraiment de revenir. C'est que, encore une fois, tout est une question de tempérance, de mesure.
C'est ça, c'est ça.
C'est-à-dire que si tu veux passer une après-midi à jouer à ta console et puis à jouer à un jeu violent, je veux dire, il y a pas de problème là. Si tu as envie de jouer très régulièrement, je sais pas moi, Counter-Strike, Fortnite, à des jeux d'horreur ou autre, en fait, on s'en fout.
On
C'est
s'en
pas le
fout.
problème. C'est-à-dire que l'élément en lui-même n'est pas problématique, c'est ton niveau d'exposition, comme tu disais Samir,
C'est ça.
l'implication que tu mets dedans, l'attachement que tu vas mettre à cette activité-là, à ce lien-là. Mais il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué depuis tout à l'heure et qui est vraiment essentiel, c'est que tous ces éléments-là, ils vont avoir un impact démultiplié si jamais il y a d'autres facteurs qui viennent s'associer. Et un des facteurs très importants, un des facteurs centraux finalement de ça, c'est ton isolement social. Si jamais tu es en haute consommation et que tu associes, quelle que soit la consommation, d'accord, les news, des bouquins, des films trash, des jeux vidéo violents, etc., et que tu viens associer l'isolement social, là, tu
Oui.
démultiplies en fait la problématique. Parce que si je suis un individu qui trouve du plaisir à aller dézinguer des zombies, à regarder des séries violentes, à regarder des films d'horreur, ok, j'ai probablement un profil dopaminergique plus important, j'aime bien la stimulation que ça me donne, c'est cool, je prends du plaisir. C'est parfait. Si tu prends du plaisir, c'est parfait. Mais si, à côté de ça, j'ai un environnement social qui est stable, je rencontre régulièrement mes amis, j'ai une famille ou des proches ou une famille de cœur sur qui je peux compter. Je suis en interaction avec tout un tas d'autres personnes. Je sais m'adapter en fait à la société. Je sais prendre ma place. Je sais communiquer. Je sais échanger. Il n'y a pas de problème. C'est souvent moi, ce qui me fait sourire, c'est la réaction d'une personne qui va en voir une autre parce que elle est habillée tout en noir, parce qu'elle est gothique, parce que ça te donne l'impression d'être un biker, tu sais, super méchant, baraqué, gros tatouage, machin et tout. Ça se trouve, c'est des gens qui sont super sympas et qui seraient les premiers à te
Mais
sauver.
grave.
D'accord, c'est vraiment. Donc, je te dis pas d'aller nécessairement vers ces personnes-là et de prendre des risques inutiles. Mais ça se trouve, c'est la personne qui est habillée, son petit costard, son petit tailleur, tout bien, tout propre, qui va te foutre un couteau dans le dos au coin de la rue. T'en sais rien du tout. D'accord? Donc, l'habit fait pas moine, puis jamais, vraiment. Mais c'est vraiment de comprendre que si jamais tu t'isoles et que tu surconsommes, justement, ces sources de d'informations, d'expériences, de sensations qui sont violentes, qui sont intenses, là, en fait, c'est là que le problème va se poser. C'est là que ça va être compliqué. Donc, peut-être que si toi, tu qui nous écoutes, t'as un enfant, t'as un ado, et tu te rends compte que bah ton ado, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, puis les jeux vidéo qu'il utilise, c'est des jeux qui sont violents. Tu peux te dire, ah ouais, mais il y a peut-être un problème, machin et tout. Regarde aussi son environnement social. Est-ce qu'il est isolé, il est pas isolé? Est-ce que il sort régulièrement? Est-ce qu'il va voir ses potes? Est-ce que il échange? Est-ce qu'il communique? Ou est-ce qu'il est constamment derrière son écran? S'il est constamment derrière son écran, attention. C'est certainement qu'il y a autre chose derrière, puis il y a une problématique et faut la prendre en compte. Mais s'il y a un équilibre qui se fait, dans ce cas-là, l'impact que va avoir le type de jeu vidéo, le type de film, le type de série, le type de livre, sera grandement minimisé. Donc, faut pas partir en guerre contre, justement, ces différents éléments, mais c'est vraiment de voir qu'il y a aussi d'autres facteurs auxquels il faut vraiment prêter attention. Parce que sinon, on pourrait très bien se dire à l'issue de ce podcast, ok, on va fonder des associations, on va créer une fondation, on va faire fermer toutes les entreprises qui créent des vidéos, des jeux vidéo qui sont violents, on va fermer toutes les maisons de production de films qui font des films qui sont violents, on ferme toutes les maisons d'édition de musique qui créent et qui supportent des artistes qui sont violents dans leur discours, dans leurs paroles, dans leur musique. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, tu fermes tout, là. C'est la prohibition fois 10 millions. Donc, ça sert à rien. Et en fait, ça ne changera pas la problématique. La problématique, en fait, il y a des éléments de comorbidité qui sont beaucoup trop importants et qui ont un impact beaucoup plus grand qu'il faut prendre en compte, justement, par rapport à tout ça. Et du coup, je voulais partager ici le côté relation sociale. C'est très important. Ouais, l'individu, l'être humain, est un animal social. Il n'est pas fait pour être tout seul. Et quand il est tout seul, il fait de la merde. Quand il est plus en contact avec le monde, avec la réalité, avec les autres, avec son groupe social, bon, si son groupe social n'est pas complètement fucké, ça c'est un autre problème. Mais s'il a un groupe social à peu près équilibré, d'accord, et puis hétérogène, bon, bah, dans ce cas-là, on est bon. Mais si t'es isolé, qu'en plus tu bombardes ta tête de toutes ces saloperies, clairement, je donne pas cher de ton équilibre psychique, à mon avis, tu vas décompenser à un moment ou à un autre, puis ça va pas être drôle.
C'est ça. C'est sûr que, tu sais, je dramatise un peu volontairement, mais c'est pour créer aussi le déclic, pour qu'on prenne conscience aussi de ce genre de choses.
C'est important.
Mais de comprendre que oui, c'est comme on l'a mentionné pour les jeux vidéo, etc. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Julien, tu sais, on joue aux jeux vidéo, il y a aucun souci.
On est accro, hein, dès qu'on fait plus de podcast ou qu'on est plus en live, on est avec la manette de la PlayStation entre les mains, quoi.
Bah, oui, j'ai pas
de PlayStation. Regarde, j'ai des ampoules sur les doigts. Non, je déconne.
Mis à part le jeu Pokémon, tu sais, moi, une fois tous les 6 mois. Ou alors ouais, Super bah Mario, allez, à la rigueur.
C'est ça, une petite partie d'un jeu vidéo bah oui, X ou Y, là, peu importe. De temps en temps, ça peut être cool bah, parce qu'on a grandi aussi avec ça. Donc, ça fait partie de notre génération et puis on a pris du plaisir à. Mais c'est ça, c'est que ça occupe pas tout le temps. Faut pas que ça devienne une addiction, puis faut pas que ça t'isole.
C'est sinon, ça. En fait, il y a plein de facteurs.
Ouais.
C'est le cumul des facteurs qui va faire qu'à un moment ou l'autre, ça va être dangereux ou pas. Parce que autant tu vas être confronté à du contenu violent, mais qu'à côté, t'as un environnement qui est stable, tu t'isoles pas, t'as quand même une vie qui est assez équilibrée. Tu sais, si jamais tu franchis un certain cap, il y aura toujours tes valeurs, il y aura toujours, en fait, cette stabilité-là qui va te rappeler à l'ordre. Ah non, là peut-être j'ai un peu franchi, tu vois, j'ai franchi un cap, faut que j'arrête là. Mais ouais, par contre, si t'es seul, si au bout d'un moment, bah, le fait d'être seul, ça va aussi causer certains problèmes, c'est un déséquilibre en tout cas chez toi. Si derrière, tu manges en plus de la merde, tu te reposes pas, il y a vraiment plein de facteurs. En fait, si tu les cumules, bah, à un moment ou l'autre, là, ça va devenir hyper dangereux. Donc, oui. Mais de quand même garder à l'esprit que ce contenu violent peut être dangereux et de s'observer, de voir dans quelle mesure toi, aujourd'hui, en fait, si tu consommes du contenu violent, bah, ça t'impacte au quotidien. Est-ce que tu sens que ton empathie est en train de baisser? Est-ce que tu te sens moins empathique que d'habitude? Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, oh, c'est bizarre, je suis moins empathique que d'habitude. » Bah, regarde peut-être un petit peu ton environnement. Mais quand je dis ton environnement, c'est plein de choses, hein. Ça va être, regarde, qu'est-ce qui a changé, peut-être, entre avant et maintenant? Est-ce que tu te reposes suffisamment? Est-ce que tu es avec des personnes qui sont positives pour toi? Est-ce que tu regardes du contenu violent? C'est vraiment toutes ces choses-là. Si tu prends tous ces facteurs, tu pourras peut-être te rendre compte de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que, potentiellement, t'es moins empathique, par exemple. Ou si, peut-être, aujourd'hui, t'es beaucoup plus nerveux, t'es beaucoup plus violent, ou tu te sens beaucoup plus violent. Et aussi, s'il y a cette espèce d'addiction de recherche de contenu de plus en plus trash, si tu sens que, ah non, j'ai besoin de regarder du contenu de plus en plus trash, là, ça peut être un peu problématique. Moi, je me rappelle une fois, c'était quand je travaillais dans l'ancienne boîte, il y avait un mec qui aimait bien le contenu trash, tu vois, et à un moment, il me parlait d'un film, mais c'est, honnêtement, c'est irregardable, hein. C'est un contenu hyper trash, je sais même plus comment ça s'appelle, ou c'était... Tu sais, c'est filmé en caméra première personne, là, okay. Où des gens qui vont dans une espèce de forêt rencontrer des indigènes, où il y a du cannibalisme, tu vois. Et le mec, il m'a raconté l'histoire. Je dis, mais comment tu peux regarder ce genre de choses, tu vois. Ouais, voilà, vraiment, franchement, faut éviter. Il y a eu beaucoup de scandales, d'ailleurs, autour de ce film-là. C'est ce qu'il m'avait expliqué, d'ailleurs. Et en fait, c'était comme, mais comment tu peux regarder? Et en fait, le mec, il est en recherche de ce genre de contenu de plus en plus trash. Là, ça peut être dangereux, en fait. Tu vois, parce que tu te rends compte que ton système, là, il a besoin d'aller chercher plus loin. Et c'est pas quelque chose de positif, en fait. Donc, juste observe-toi, regarde-toi, en fait, ton juste milieu à toi, en fait. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de changer? Est-ce que ça peut être problématique pour toi au quotidien? Et à ce moment-là, remets-toi en question et pose des actions. Et c'est peut-être là aussi où on va amener des outils avant de terminer, Julien. Quel genre d'outils? Bah, le premier... On en reparle encore une fois, il est central, il revient tout le temps, on l'invite à chaque podcast, c'est la reconnaissance déjà de la problématique, de s'auto-observer, de regarder justement à quel niveau tu es aujourd'hui, quel type de contenu tu regardes, est-ce que tu es en contact avec du contenu ultra gore, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'es en recherche de contenu de plus en plus gore. Donc déjà ça c'est la première chose, ouais, si t'as cette problématique-là, de le reconnaître. Et de regarder un petit peu aussi quelles sont les conséquences que ça a sur toi aujourd'hui par rapport à avant. D'accord ?
Ouais, bah, peut-être juste en évoquer quelques-unes. Tu l'as déjà fait, mais ça va être ton niveau de concentration, ton niveau de procrastination, ton niveau de passage à l'action, ton niveau d'engagement dans tes relations sociales, la qualité de ton sommeil, la qualité de ton alimentation, l'énergie en fait, que tu as tout simplement dans le quotidien. Il y a tellement de facteurs que tu peux observer où tu peux te dire, ok, bah, quand je suis vraiment fatigué, quand je suis angoissé, quand je suis stressé, quand je suis agacé, quand j'ai pas bien dormi, quand ceci, quand cela, bah, c'est marrant, j'ai plus tendance à aller vers. Ok, bon, bah, maintenant, tu sais ce qui te reste à faire. Tu sais, c'est conjuguer la diminution de ta consommation avec l'augmentation des sources de repos, de bien-être, de positif, d'échange, de connexion, le plus possible.
Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, ça, c'est la première chose qui peut être faite. Julien, peut-être, est-ce que tu as un autre outil que tu pourrais amener?
Bah, un autre outil, en fait, qui est important, à mon sens, c'est de te reconnecter à la personne que tu veux devenir toi, c'est-à-dire ton idéal. Pas te mettre une pression particulière et pas te dire « Oh, bah, je dois être une personne parfaite, je ne dois plus consommer ça, je ne dois c'est plus ça. Faire ça, je ne dois plus... » C'est pas l'idée. C'est plus te connecter à ton idéal en tant que personne. Qui est-ce que j'aimerais devenir? Qui est-ce que j'aimerais être? Pour en avoir une vision et une idée la plus précise et la plus claire possible, et ensuite de tendre à travers tes comportements à ressembler finalement à cette personne-là que tu veux devenir. Parce que juste changer le comportement pour le comportement, ça fonctionne pas super bien. Si tu changes l'image de toi et vers laquelle tu veux tendre et que tu t'accroches à ça, bah automatiquement, par besoin de ton cerveau de cohérence, il va faire en sorte que tu adoptes naturellement des comportements qui sont en fait différents. Et je te donne un exemple tout bête, hein, mais tu vas avoir beaucoup plus de facilité à maintenir une activité sportive si elle est conjuguée à un travail de fond que tu fais sur ton alimentation. Si tu décides de juste faire un régime ou une restructuration alimentaire, mais que tu gardes les mêmes habitudes physiques que d'habitude, c'est très difficile de changer ton alimentation. Au même titre que si tu décides simplement de te mettre au sport sans ajuster ta manière de t'alimenter, ça va être très difficile de maintenir le sport. Si tu fais les deux en même temps, tu crées plus de cohérence et donc t'amènes encore plus de cohérence derrière. Et l'idée, c'est qu'en connectant avec une identité que tu as envie d'atteindre, de développer une version de toi, bah automatiquement, tu vas chercher à gagner en cohérence sur tes attitudes, tes choix, tes comportements, tes réactions, ce que tu tolères, ce que tu tolères pas. Et petit à petit, ça va s'aligner justement dans cette dynamique-là. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on enseigne beaucoup hein, à l'Institut, que ce soit en PNL, en sophro, en hypnose, en psychologie positive. Bah, on tend vers ce qu'on appelle, nous, l'hyperalignement. C'est « je vais m'aligner avec l'identité profonde que j'ai envie de développer et par besoin de cohérence de mon cerveau, il y a énormément de choses qui vont se mettre dans la même ligne. Maintenant, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Bon, c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais c'est le point que j'amènerai là tout de suite.
Ouais, exact. Moi, je dirais aussi peut-être de se reconnecter un peu à ses besoins et ses valeurs, qui est, tu sais, qui est une continuité de ce que tu dis au final, parce que c'est en lien direct. C'est de te reconnecter à tes besoins et à tes valeurs. Déjà de les connaître, d'accord? Et aussi de voir un petit peu si ça correspond à tes valeurs. Parce que si ça ne correspond pas à tes valeurs, ça pourrait être problématique. Ou même à tes besoins, d'accord ? Aussi, quand je parle des besoins, en fait, de voir peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un besoin qui te pousse à aller chercher du contenu de plus en plus trash ? Je pense au besoin de stimulation, par exemple, Julien, qui peut amener à aller vers du contenu de plus en plus trash. La personne va avoir le besoin, tu vois, de se stimuler, en fait, d'aller chercher des choses différentes, d'être en contact avec des choses différentes, d'aller plus haut en fait. Et le truc, c'est juste que si aujourd'hui, pour remplir à ton besoin de stimulation, tu vas regarder du contenu de plus en plus trash, bah peut-être que faudrait que tu te poses la question, comment je peux faire pour répondre à mon besoin de stimulation ? Peut-être que, bah, je sais pas, tu as peut-être besoin de défis, donc fais du sport, va faire du sport, va rencontrer des gens, fais des choses nouvelles pour te stimuler. Mais ne t'enferme pas à aller regarder du contenu de plus en plus trash, aller faire des choses de plus en plus trash, de plus en plus graves, justement pour répondre à ce besoin.
Ouais. Ouais, complètement. Puis tu remets aussi en lumière l'importance d'avoir une vision et une clarté d'esprit sur, bah, encore une fois, la personne que tu veux être. Parce que plus tu t'éloignes de ça, plus en fait tu te reconnectes à tes instincts les plus primaires et à tes modes de fonctionnement les plus basiques de survie, de reproduction et de défense. Donc, c'est, tu sais, si t'as pas envie de finir comme un gros viking dégueulasse qui va sauter sur tout ce qui bouge ou de devenir ultra agressif avec tous les gens qui t'entourent, bah, il faut aussi que tu reconnectes à une meilleure version de toi et que tu t'intéresses à quelque chose qui est plus important que toi, qui te dépasse toi, dans ton petit nombril, ta petite identité, mais te connecter à quelque chose de plus grand parce que c'est ça, on a besoin d'être connecté à plus grand, on a besoin d'être connecté à un groupe, à une identité qui est plus grande que la nôtre. Donc, en stratégie, ce que je proposerais ici, c'est travaille, en fait, tes qualités de connexion sociale, d'interaction avec les autres. Travaille dessus. Si t'as l'impression que tu sais pas communiquer, que tu sais pas connecter, que tu sais pas comment gérer les relations sociales, travaille dessus, prends des cours, suis des formations, c'est pas ça qui manque. T'as du contenu en masse sur internet qui t'aide à avancer là-dessus. T'as plein de bouquins qui sont super intéressants sur le sujet. T'en as un d'ailleurs, si jamais tu ne l'as jamais lu, le truc de base, je pense que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie, c'est L'art de se faire des amis de Dale Carnegie. Tu lis ça, déjà ça va te donner énormément d'éléments pour bâtir des relations sociales qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus intéressantes. Et si tu fais ça, bah, tu vas te rendre compte que ça va devenir de moins en moins intéressant, finalement, d'aller chercher du contenu trash. Ça va être de moins en moins intéressant d'être planqué dans ton salon, devant ta console de jeu, à longueur de journée. Tu vas automatiquement répondre à d'autres choses qui sont plus importantes, qui ont plus de valeur. Tu prendras certainement toujours du plaisir à te poser avec un bol de chips devant la télé en train de regarder un film un peu gore parce que t'aimes ça. Puis c'est OK. Mais connecte avec le monde. Connecte avec les autres, crée-toi un réseau social qui est solide, qui est stable, où il y a des interactions. Reste pas dans ton coin. Ça, c'est important.
Ouais. Vraiment, ça va être hyper important. Peut-être si je devais amener un dernier point, Julien, ce serait aussi peut-être de recréer un équilibre. Du coup, si tu consommes trop de ces choses-là, peut-être de réduire un petit peu, tu vois. Je vais te donner l'exemple parce que c'est pareil. Je reparle de ça parce que c'est vrai que je l'ai toujours pas fait cette formation, mais il faudrait que je la fasse un jour ou l'autre. Je parlais de la pornographie, des dangers surtout sur les enfants et du risque d'addiction dans le temps. Surtout au plus un enfant va être confronté jeune à ce genre de merde. En fait, c'est que ce qui revient souvent, par exemple, comme stratégie, c'est t'as été désensibilisé, tu vas te resensibiliser. Tu vas aller dans l'autre sens. Si t'as tendance à regarder des choses hyper trash, tu vas réduire au fur et à mesure du temps. T'arrêtes pas d'un coup parce que ça va être compliqué pour toi, d'accord ? Arrêter d'un coup, c'est pas une stratégie qui fonctionne tout le temps. Très rarement, ça dépend des gens. Il y a des gens sur qui ça peut fonctionner, mais pour beaucoup, beaucoup de monde, ça peut être décourageant, en fait, d'arrêter. Parce que c'est comme, je veux arrêter d'un coup, mais j'y arrive pas. Donc après, en fait, ça va créer une frustration. Tu vas retomber dedans comme pour peut-être te déconnecter de tes émotions, etc. On sait, parce qu'il y a toujours un, faut savoir que derrière ces comportements-là, le fait d'aller chercher du contenu plus trash, etc., il y a une intention positive pour soi-même. Donc c'est bien aussi de la connaître. Ça m'amène ce point-là qui vient de popper. Du coup, de connaître l'intention positive derrière. Mais du coup, ça va être juste de réduire au fur et à mesure du temps, pas arrêter d'un coup, pour se reconnecter peut-être à cette version de soi qui est meilleure. D'accord. Donc voilà, je le dis assez rapidement. Mais j'espère que ce sera suffisamment compris.
J'ai l'impression, en tout cas, que dans cet épisode de podcast qu'on a produit ici, bon, déjà, on aborde un sujet qui est important, ce côté que le cerveau va se désensibiliser de beaucoup de choses si on ne fait pas attention, mais que ça ne nous prévient pas des risques de trauma et de déséquilibre que ça peut occasionner. C'est absolument pas une barrière. C'est juste que le cerveau s'habitue à jusqu'à ce que ça pète, jusqu'à ce que ça produise un effet. Et là, souvent, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que ça s'est tellement accumulé que il y a ça qui se produit. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, on a quand même donné des pistes ici qui sont clés sur, fais attention, attention à ta consommation, attention à tes relations, attention à tes habitudes, modifie-les petit à petit, cherche pas à tout changer d'un seul coup, vas-y progressivement, réajuste, observe-toi, développe, nous, ce qu'on appelle la métacognition, ta propre capacité à réfléchir à toi-même, à tes propres comportements, tes propres pensées, pour prendre du recul, essayer d'aller le plus possible vers ça. Et je pense, après tu nous le diras, toi, en commentaire, si jamais il y a des éléments sur lesquels t'aimerais qu'on revienne, qu'on reprécise, qu'on explore plus en profondeur, qu'on t'explique plus en profondeur, tu nous le mets en commentaire, puis ça nous fera vraiment plaisir de faire un deuxième, peut-être un troisième, un quatrième épisode, s'il faut, sur ce sujet-là. Parce que, parce qu'encore une fois, nous, on fait en sorte d'amener un maximum de sujets autour de la psychologie humaine, autour des comportements, autour en fait des facteurs systémiques qui permettent d'augmenter le bonheur, d'augmenter le bien-être, d'augmenter la progression personnelle. Mais s'il y a des éléments sur lesquels tu as besoin qu'on précise, qu'on aille plus loin, ça nous fera vraiment grand plaisir de prendre ce temps-là, justement.
Donc voilà, toi qui nous écoutes, commente ce podcast, dis-nous un peu ce que t'en penses, peut-être que t'es pas d'accord avec nous et c'est correct, d'accord, il y a aucun souci avec ça. Nous, on t'amène notre vision, on t'amène aussi un peu parfois le fruit de nos recherches, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut regarder, de ce qu'on peut observer. Mais tu sais, on dit pas non plus qu'on a raison à 100%. C'est aussi pour ça qu'on amène de la nuance, c'est aussi pour te faire comprendre en tout cas que c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut t'amener, que la compréhension qu'on peut t'amener aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être en lien. Et que c'est pas inscrit dans le marbre, ça, c'est du cas par cas, c'est en fonction des personnes, c'est en fonction de plein de facteurs. Donc voilà, juste commente ce podcast, dis-nous ce que t'en penses, like, partage également si tu sens que ça peut être utile pour d'autres personnes, si tu connais des gens autour de toi peut-être qui sont confrontés à du contenu ultra gore, qui sont en recherche de ça en tout cas, et que ça peut-être être négatif pour eux à ce moment-là. Donc partage au maximum. Julien, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant de finir.
Non, comme d'habitude, on pourrait continuer d'explorer ce sujet-là, d'insister sur différents points, mais je crois vraiment qu'on tient les éléments essentiels ici. On reviendra possiblement d'une manière transversale, probablement, sur le sujet dans d'autres podcasts. On a déjà évoqué quelques éléments dans des podcasts précédents, de toute façon. Donc ça vient comme renforcer et apporter toujours plus de valeur. Donc en tout cas, on espère vraiment du fond du cœur qu'avec ce nouvel épisode, on t'a apporté justement de la valeur, que ça t'a permis de remettre des choses en perspective, de comprendre plus de choses sur toi, sur les autres, sur le fonctionnement de l'individu. Et puis, bah, on va te retrouver très bientôt pour un prochain épisode.
Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit
à la prochaine.